Nous allons commencer, une fois n'est pas coutume, par notre sujet long, qui porte aujourd'hui sur la politique logicielle libre de la ville de Voisins-le-Bretonneux. Et j'ai le plaisir de recevoir, par téléphone, le premier adjoint à la maire et délégué à la ville solidaire au numérique et à la vie économique de la ville, Christophe Boissonnade. Bonjour Christophe.
Bonjour Étienne, bonjour à toute l'équipe de la prise, que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer. Et bonjour aux auditeurs de Cause Commune.
Ben, j'ai une première question, somme toute très classique à vous poser. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, alors j'ai donc premier adjoint, vous l'avez déjà dit, à la ville numérique et la ville solidaire, mais vous verrez que dans au cours de l'interview, je pense que ces deux sujets aujourd'hui, enfin ces deux délégations on marche ensemble, surtout ce qui concerne l'inclusion numérique, on en reparlera certainement plus tard. J'ai un passé dans le logiciel libre où j'ai été moi-même consultant pendant 15 ans. Dans une structure consultant indépendant et je suis aujourd'hui, j'ai un petit peu changé de vie au niveau de mon métier, mais je suis toujours dans le numérique et je promeux toujours les valeurs du logiciel libre dans le monde mutualiste. Je suis directeur général d'une petite fédération de mutuelles qui l'ADN mutualiste est très très proche de celui du logiciel libre, notamment dans le partage des ressources.
Très bien. Et bien, du coup, en plus, vous avez devancé la question suivante que je voulais vous poser. Et vous avez introduit, je pense, le début de ce qui sera votre réponse. Je voudrais savoir, pour vous déjà, avant de me répondre en tant qu'élu, mais en tant que citoyen, c'est quoi le logiciel libre? Pourquoi est-ce quelque chose d'important?
C'est important à plus d'un titre. Déjà, en tant qu'élu, ce qu'on essaye de faire normalement, dans tout ce qu'on fait, dans tous les projets que nous portons, c'est d'injecter toujours plus de liberté, toujours plus d'égalité, toujours plus de fraternité dans tout ce qu'on fait. Et en ça, le logiciel libre est vraiment intéressant parce qu'il me permet, moi en tout cas, de lier les trois, ce qui est assez rare. Et puis, d'un point de vue aussi plus éthique, dès qu'on est amené à gérer de l'argent public, eh bien, on est très très soucieux du denier public et de ne pas dépenser inutilement. Alors d'autant plus qu'en général, les solutions propriétaires sont proposées par de grands acteurs américains qui sont bien souvent champions de l'évasion fiscale. Enfin, c'est vrai qu'on dit optimisation, excusez-moi. Et en tant qu'élu, notre responsabilité, c'est aussi de faire en sorte de faire travailler des écosystèmes locaux. Et pour ça, le logiciel libre est assez idéal pour trouver des compétences locales, même si c'est pas toujours évident, c'est vrai, par rapport à des solutions plus connues du monde propriétaire. Mais en tout cas, de faire en sorte que les sociétés avec lesquelles on travaille soient fiscalisées en Europe, puis en France de préférence quand même. L'idée étant que participer à la société, c'est aussi payer l'impôt. Je sais que c'est pas très vendeur de payer l'impôt, mais ça permet de rouler sur les routes, ça permet aux enfants d'aller à l'école, ça permet d'être soigné dans les hôpitaux, ça permet d'être protégé. Voilà, donc c'est tout ce qui est très très important à nos yeux pour faire que la société continue de fonctionner, tout simplement.
Vous avez fait, je pense, un beau tour d'horizon de ce dont on pourra parler. J'espère qu'on pourra parler de tout ça, parce que vous soulevez des choses très intéressantes. Et c'est vrai que la question de l'impôt ou de la fiscalité, on n'en parle pas forcément toujours quand on parle du logiciel libre et globalement quand on parle liberté publique, mais c'est quand même un aspect très important de comment aussi on fonctionne collectivement. La question ensuite, c'est quel usage sera fait de cet impôt et est-ce que ça correspond justement à ce qu'on va considérer être l'intérêt général et à notre éthique. Peut-être aussi pour qu'on comprenne mieux du coup d'où vous parlez, vous êtes présenté et alors vous êtes effectivement un élu. Vous êtes donc délégué à la vie solidaire, au numérique et à la vie économique. Alors déjà, ce serait intéressant, je pense, pour nous, pour nos auditeurs et auditrices, de savoir finalement quel est le périmètre, on va dire, votre périmètre d'action. Et vous avez mis le doigt sur une question que je voulais vous poser, ce que je trouve toujours intéressant de voir qu'est-ce qui, dans les descriptifs de postes, on va dire, ou de pouvoir, comment sont liés politiquement les périmètres aux technologies numériques. Donc là, on voit vie économique et de solidarité qui sont donc liés à votre position de délégué au numérique. Et de voir comment tout ça s'articule, et ça, je pense que ça serait intéressant d'avoir votre éclairage.
Merci. Bien sûr. Ouais, alors c'est aussi la vision de la ville intelligente. Alors c'est vrai que c'est un terme très galvaudé c'est vraiment un mot valise, on met un petit peu tout ce qu'on veut dedans. Néanmoins, on peut en avoir une vision politique légèrement différente de celle qui est poussée par les grands industriels. Et la ville intelligente, pour nous, c'est être au plus proche des citoyens, c'est leur permettre d'échanger avec la collectivité sur tout un tas de sujets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de se passer du numérique pour consulter largement. On parle beaucoup de démocratie participative. Je préfère le terme de démocratie implicative. Démocratie, si elle n'est pas participative, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc je préfère parler de démocratie implicative. Et ces sujets-là sont vitaux aujourd'hui en termes de gouvernance. On peut pas faire du développement durable, par exemple, sans impliquer le citoyen dans la décision. Voilà. Et aujourd'hui, on voit d'ailleurs, enfin, je suis le premier à regretter, mais il y a un certain désintéressement des citoyens pour les urnes. Hein. On voit les taux de participation sur les dernières élections, voilà, c'est inquiétant. Enfin, je veux dire, on voit qu'il y a une distanciation entre le citoyen et la politique locale. Je parle pas de la politique politicienne. La politique locale, c'est l'endroit dans lequel on vit. Donc, ne serait-ce qu'à ce titre-là, sans partir dans des considérations de partis politiques, etc. On se doit de s'intéresser au. Ben, c'est aussi du bien commun, hein, l'endroit dans lequel on vit. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est que le numérique est, je dirais, devenu presque incontournable, et d'autant plus dans le contexte sanitaire que nous traversons, puisque nous avons tous traversé une période, enfin, deux périodes de confinement maintenant, et maintenir le lien, la relation aux citoyens. En utilisant des outils numériques, ben aujourd'hui, c'est voilà. Si c'était pas encore évident il y a quelques mois, je crois qu'aujourd'hui tout le monde a compris que c'était absolument incontournable. Donc cette vision de la politique numérique et de la ville intelligente sur le voilà, c'est pour nous indissociable des autres délégations. Et vous allez très très vite faire le lien vous aussi avec des cas concrets. Moi, je vais l'illustrer avec la délégation à la ville solidaire. Quand on travaille avec des Enfin, voilà, quand on travaille dans l'action sociale, on s'aperçoit aussi que vous avez énormément de Français qui sont éloignés du numérique. Hein. On le sait, aujourd'hui, c'est 13 millions de Français qui sont éloignés du numérique. Donc, Voisin Bretonneux n'est pas un petit village gaulois. Hein. Voisin Bretonneux a aussi sa part de personnes qui sont déconnectées, enfin déconnectées ou éloignées, on va dire. Donc, on doit les prendre en charge, et pas uniquement lié à l'âge. Moi, j'ai la chance d'animer dans l'espace public numérique une petite classe que j'appelle l'école du libre, où j'enseigne l'utilisation de certains logiciels libres à des jeunes, mais aussi à des adultes et des seniors. C'est pas parce que vous êtes adulte, en fait, que vous savez vous servir d'un ordinateur, et c'est pas parce que vous êtes jeune et vous savez parfaitement manier un smartphone et les dernières applications que vous êtes capable de taper un CV sous LibreOffice, par exemple. Donc voilà, on travaille beaucoup, nous, aujourd'hui, sur tout ce qui est inclusion numérique. Alors, on le fait pas tout seul, on le fait avec une coopérative qui s'appelle la MEDNUM, la coopérative de la médiation du numérique.
Entendu.
Qui nous aide aussi en termes de méthodologie pour travailler sur ces questions-là qui sont essentielles.
C'est vrai que les questions de l'inclusion numérique sont très présentes. Et je pense qu'on s'y attardera, sur cette notion-là qui me semble effectivement assez centrale, peut-être, du moins, alors, votre action, de ce que vous évoquez. Alors, avant de passer, je vois qu'on n'a pas. Je pense qu'il serait intéressant pour les auditeurs et auditrices de, peut-être en quelques chiffres, si vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'est Voisin le Bretonneux en termes de population, de localisation, etc. Je pense que ça pourrait aussi donner, sera clarifié peut-être d'où vous parlez.
Oui, absolument. Oui, pardon, j'aurais dû le faire dans la présentation. Voisin Bretonneux, c'est une petite ville de l'ouest parisien qui fait partie de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Si vous situez Versailles, voilà, on est vraiment entre Versailles et Trappes en Yvelines. C'est une population aujourd'hui de 11 300 habitants. Voilà, c'est une toute petite ville, hein, en banlieue parisienne. Hein. C'est pas une grande ville. Mais on a un petit territoire, et ça nous permet aussi de travailler en souplesse. Les élus sont, enfin, essayent en tout cas d'être le plus proche possible de leurs concitoyens, et ça nous permet de tester pas mal de choses. Vous voyez, par exemple, on a un petit peu, pour nous affranchir des algorithmes affinitaires de Facebook, on a lancé notre propre réseau social sur des briques 100% open source. C'était dans le précédent mandat, depuis 2015, et voilà, c'est pour permettre à toutes celles et ceux qui, je vous avoue que la concurrence est rude, hein, c'est difficile d'attirer des gens sur des médias qui sont pas mainstream, mais en tout cas, voilà, ça permet à des gens de d'échanger sur des problématiques locales. Ça permet aussi à certains commerçants de faire de la publicité gratuitement pour leur activité. Voilà, tout ça sans être tracé. Il n'y a pas d'obscur algorithme qui pousse de la publicité. C'est entièrement gratuit et c'est tout à fait le genre de service qu'on essaie de déployer auprès des Vicinoises et des Vicinois.
Et c'est un logiciel que vous avez développé vous-même ?
C'est sur une base Joomla. Non. C'est
Joomla. Parce qu'il y a des auditeurs, ouais. Je pense, et auditrices qui ont un peu qui peuvent avoir un bagage technique, c'est pas le cas de tous, mais qui pourraient être intéressés. Voilà, donc c'est basé sur Joomla, vous dites.
Oui, absolument. Oui. Dès qu'on peut, c'est vraiment une philosophie. Et là, j'ai une chance incroyable parce que si j'étais un élu tout seul, même passionné de logiciels libres depuis 20 ans, si j'avais pas une solide équipe technique qui partageait ces mêmes valeurs au niveau des services de la ville, je ferais pas grand-chose. Mais j'ai la chance, voilà, au service informatique de voisins bretonneux et au service numérique, d'avoir des gens avec qui nous sommes parfaitement en phase sur ces sujets-là, ce qui nous permet vraiment d'avancer peut-être plus vite qu'ailleurs, parce qu'entre la décision politique et l'application concrète. Les temps sont extrêmement réduits, on est capable de déployer des solutions extrêmement rapidement, qu'on a même fait pour une solution de distribution des masques pendant la crise sanitaire. On a développé un outil uniquement sur des bases open source, et d'ailleurs on réfléchit à en partager le code, voilà.
C'est tout l'intérêt du logiciel libre, surtout si c'est effectivement financé par de l'argent public, autant que ça serve un maximum.
Exactement, on est bien d'accord.
Et est-ce qu'il y a c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on sait à quel point c'est important qu'il y ait finalement une collaboration entre les pouvoirs politiques, notamment élus, et puis ceux qui mettent en place la technique, qui travaillent. On sait que ça marche beaucoup mieux lorsqu'il y a cette collaboration que vous évoquez. Alors du coup, la politique, comment vous traduiriez la politique logiciel libre de Voisins le Bretonneux, comment elle s'est mise en place et comment s'est traduit justement du coup cette collaboration, ce travail en équipe que vous évoquez, et quel est votre rôle, votre rôle d'élu, quel est-il été là-dedans?
Mon rôle d'élu, c'est comme tous les élus, c'est d'impulser, d'aller vers toujours du plus. C'est pour ça que la politique sur le logiciel libre à Voisins est relativement simple, hein. C'est dès qu'on peut, on en met. C'est pas plus compliqué que ça. Après, voilà, on a aussi, une collectivité échange avec beaucoup de partenaires. C'est parfois difficile de s'affranchir de certaines solutions propriétaires. On y travaille, mais ça prend du temps. Je crois qu'on a essayé d'injecter du logiciel libre, alors de façon très classique, dans toutes nos écoles, sur tous les postes, mais aussi l'ensemble des postes des collaborateurs travaillent sous LibreOffice. On essaie de déployer. On a beaucoup de serveurs Linux aussi sur nos serveurs de machines virtuelles. Par exemple, notre PABX, c'est du Asterix.
Alors PABX, est-ce que vous pourriez expliquer?
Pardon, c'est notre serveur de téléphonie, voilà. IPBX en tout cas, notre serveur de téléphonie, oui pardon si je merci de me reprendre. notre serveur de téléphonie, c'est aussi une solution 100% libre, hein, okay. Dans tous les outils, c'est difficile de faire le tour, ce serait certainement un peu ennuyeux à écouter, mais c'est vraiment on est profondément attaché à ça, toujours dans cette logique de respect du denier public, mais aussi de sécurité informatique, parce que dans bien des cas, la transparence du code est rassurante.
Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on décrit, nous, souvent, on critique souvent ce qu'on appelle un peu le fantasme d'une sécurité par le secret ou par l'obscurité, qui voudrait que parce que c'est caché, on
vendait dans les années 90, oui.
Voilà. Mais plus de pères dieux peuvent auditer le code, mieux c'est, effectivement, si on parle
de ça. Complètement, ouais, c'est tout à fait.
Alors, comment vous avez parlé, voilà, vous avez listé des exemples, et c'est toujours intéressant d'avoir des exemples concrets de logiciels que vous utilisez. Donc voilà, il y a de la bureautique, j'imagine qu'il y a peut-être des problématiques sur des questions de logiciels métiers. Vous avez parlé des serveurs. Comment vous procurez du logiciel? Parce qu'on sait que la commande publique, c'est pour ça que nous on porte, alors on formule autrement je sais plus comment vous l'avez dit, mais nous on parle de priorité logiciel libre, mais qui fondamentalement veut dire effectivement, comme vous disiez, quand on peut, on en met. Voilà, donc vous êtes plutôt en développement interne. Vous faites appel à prestations, concrètement ça se met en place?
On n'a pas les ressources, on est une petite ville, hein, donc on n'a pas vraiment les ressources pour développer en interne. Hormis l'exemple, c'est l'exception qui confirme la règle, sur la solution pour la distribution des masques anti-Covid. Mais en général, on fait plutôt appel à des prestataires, sauf ce qu'on peut intégrer nous-mêmes parce qu'on en a les compétences.
D'accord. Donc en fait, vous faites, parce que c'est vrai que nous, alors on défend le privacy et le logiciel libre, on nous dit que parfois, alors c'est moins en moins entendu, mais que ce n'est pas possible d'un point de vue commande publique. Donc en fait, très concrètement, si j'imagine, ce que vous faites, c'est vous identifiez peut-être le logiciel dont vous avez besoin, le logiciel libre, ou plutôt les besoins, on va dire, en termes techniques, et ensuite...
Oui, on part toujours effectivement des besoins des utilisateurs, et puis on voit quelles sont les solutions qui peuvent y répondre. Et c'est sûr que si on trouve un logiciel libre pour faire le travail, eh bien on aura une tendance naturelle à le choisir. Après, effectivement, soit on a les compétences en interne pour le gérer et le temps. Ça, c'est aussi des questions de ressources humaines. Donc si on a le temps, eh bien on intègre la technologie nous-mêmes. En plus, on aime bien, on a d'excellents techniciens qui aiment bien comprendre comment ça fonctionne. Et puis si au contraire, on a des difficultés techniques, on voit que c'est pas possible ou que ça va nous prendre trop de temps, donc dans ces cas-là, on a effectivement beaucoup plus tendance à confier ça à des prestataires externes.
Très bien. Et alors du coup, vous parliez effectivement des techniciens des techniciens en ville, et ça me fait penser, c'est mon collègue Frédéric Cochet qui utilise parfois cette phrase qui m'a tout de suite beaucoup plu, pour expliquer que le logiciel libre, en fait, la seule limite, c'est le talent, l'imagination des personnes lorsqu'elles cherchent à régler un problème. Elles ne sont pas limitées par des considérations, par des blocages de licences, etc. Et donc, c'était au sein de l'équipe technique, c'était déjà il y avait déjà des libristes convaincus, il a fallu les convaincre.
Non, moi j'ai eu cette chance-là, en fait, cette chance extrême d'avoir notamment le directeur du service informatique qui connaissait déjà énormément le secteur du logiciel libre, beaucoup de logiciels libres, qui en avait déjà mis en place. Donc je me suis plus inscrit dans une continuité, très honnêtement, j'ai pas eu à pousser grand-chose pour que ça s'installe. Alors si vous voulez, par contre, là on était plus sur de l'infrastructure. Dans les applications, je dirais, plus les usages numériques, là, c'est là où en arrivant, nous avons créé, enfin je vous parle du mandat précédent, nous avons créé un service dédié au numérique, parce qu'il n'y avait pas vraiment de distinction de fait à l'époque entre le service informatique, et puis il y avait aussi la communication, mais les usages numériques, ils étaient un petit peu entre les deux. On parlait à l'informatique, on en parlait à la communication, mais on n'avait pas vraiment cette vision du numérique à part entière. Et ces usages, on les a développés, en mettant des outils sur Internet, par exemple, comme le réseau social dont je vous ai parlé, mais il y en a d'autres, nous les avons développés uniquement à base de logiciels libres ou de technologies qui, en tout cas, intégraient des logiciels libres. Encore un exemple concret, on a fait une application smartphone pour la ville. On a veillé dans l'appel d'offres à ce que les technologies employées, même si nous, voilà, si on est passé par une société privée pour le faire, NeoCity d'ailleurs, que je recommande vivement, franchement, ils ont fait un travail incroyable. Ils utilisent, et c'est en cela aussi que je les remercie, c'est qu'ils utilisent des briques open source au sein de leur des solutions qu'ils distribuent auprès des collectivités.
Bien, ben non, ben aussi ils font du bon travail, autant le dire. Alors vous parliez aussi, partir du besoin des utilisateurs et des utilisatrices. Alors si on sort, si on reste à l'interne de voisins de Bretonneux, mais qu'on ne parle plus les techniciens, mais plutôt des agents publics en général, comment est-ce qu'ils ont été, alors comment eux ont, selon vous, reçu un petit peu cette politique, comment ils perçoivent quand c'est possible on met du libre, comment est-ce qu'ils sont inclus dans ce processus? Quels sont les retours qu'ils font de ce passage progressif vers de plus en plus de logiciels libres?
Bien, c'est surtout une question de... Là, oui, on est vraiment dans les usages. Alors, les usages en interne à la mairie, dès que vous modifiez une interface, d'ailleurs, c'est pas une problématique qui est entièrement liée au logiciel libre. C'est dès que vous touchez à des habitudes de travail, quel que soit le secteur, quel que soit les outils que vous utilisez, vous avez toujours forcément un peu de réticence au départ. Mais c'est pour ça que, en expliquant le fond de la démarche, en expliquant pourquoi on fait ça, les gens y adhèrent d'autant plus, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les budgets des collectivités locales se restreignent comme une peau de chagrin, et il est très compliqué de sortir des budgets de plus en plus conséquents, alors sachant qu'en plus aujourd'hui, pour tout ce qui est suite bureautique, suite graphique, mais d'autres logiciels, on arrive de plus en plus sur des abonnements dans le cloud, etc. C'est pas facile. c'est pas facile. Alors après, en partant du besoin utilisateur et en les accompagnant et en leur mettant à disposition des outils qui répondent aussi, on en profite, hein, quand on fait des migrations, on en profite pour leur apporter des solutions aussi encore plus, je dirais, plus proches de leurs besoins, qui leur font gagner du temps, et ben c'est aussi apprécié. Donc vous voyez, il n'y a pas que le changement d'outils. C'est vrai que le changement d'habitude, ça fait toujours peur. Mais quand c'est fait, je veux dire, avec le souci d'expliquer aux gens et de leur demander comment est-ce qu'on peut aussi améliorer les choses pour l'utilisateur final, et ben en général, ils sont plutôt très réceptifs. Ça n'exclut pas quelques grognements, mais je ne veux pas dire que tout le monde a sauté de joie, mais globalement, ça s'est vraiment très bien passé.
Très bien, vous répondez à la question que j'ai posée sur si vous aviez un conseil clé à donner, voilà, une collectivité qui voudrait entreprendre cette démarche, et notamment dans leur relation aux agents publics,
ouais,
mais je crois que vous avez répondu.
C'est beaucoup d'explications, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, c'est vraiment... éthiquement, c'est inconcevable d'aller financer des solutions qui participent pas à la vie de la société, donc qui payent pas leur impôt en France ou qui font tout pour pas en payer. C'est une aberration.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on pourra revenir là-dessus. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Voilà, pour souffler un peu et se ressaisir avant la suite de notre échange. Alors, nous allons écouter, excusez-moi, donc Purple Cat, le morceau... Le morceau, quel est-il ? Eh bien, je vous le donnerai à la suite de cette douce pause musicale proposée, voilà, suggérée par Midnight Stack. Voilà, excusez-moi, donc nous allons écouter Midnight Stack par Purple Cat. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voile est possible.
Cause Commune, 93.1.
Alors, nous venons d'écouter Midnight Snack par Purple Cat, disponible sous licence Creative Commons Attribution, partage à l'identique. L'occasion pour moi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous licence libre, qui permettent de les partager librement avec vos proches, de les télécharger parfaitement légalement, de les remixer, y compris pour des usages commerciaux. Ce sont des licences type Creative Commons, donc CC BY, Creative Commons partage dans les mêmes conditions, comme ce morceau que nous venons d'écouter, CC BY SA, ou encore licence art libre. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April, et nous discutons avec Christophe Boissonnat, délégué à la ville solidaire au numérique et à la ville économique pour la ville de Voisin le Bretonneux, et voilà, de l'engagement de cette collectivité pour le logiciel libre. N'hésitez pas à participer à notre conversation en passant par le salon web dédié à l'émission. Si vous êtes sur le site Cause Commune, bouton chat, et vous pouvez poser vos questions via ce canal. Alors je suis donc, comme je vous le disais, avec Christophe Boissonnat de Voisin le Bretonneux. Alors nous avons, changer sur votre perception notamment de l'éthique du logiciel libre, de vos usages en interne, comment vous appréhendiez dans votre mairie le logiciel libre. Alors sauf si vous vouliez encore développer là-dessus, mais je pense que vous avez fait un point qui me paraît intéressant, de nombreux points, mais un en particulier sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde maintenant. La question, alors vous ne l'avez pas encore évoqué, cela dit, ce terme-là, celle de la mutualisation, parce que vous avez parlé de la taille de votre ville, des économies qui pouvaient être faites et l'importance aussi notamment pour des collectivités de gérer leurs deniers publics. Et on sait bien qu'il y a ce levier de la mutualisation. Donc on peut imaginer plusieurs collectivités qui peuvent partager des logiciels, les différentes manières de mutualiser. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre politique, justement ?
Alors, on y travaille, aussi parce qu'on n'a pas le choix pour les questions budgétaires dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, on y a travaillé aujourd'hui, là, plus sur un plan, c'est vrai, purement informatique et matériel de rapprochement des différentes collectivités au niveau de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais c'est quelque chose que j'aimerais aussi développer, dans un premier temps, pas forcément sous la forme d'une contribution, parce que comme je vous ai expliqué, on a peu de ressources en interne pour le faire. Mais peut-être autour de projets comme la Bulacte se plus utiliser leur forge et leurs compétences pour trouver des solutions qui pourraient remplacer nos solutions propriétaires et que nous pourrions mutualiser avec d'autres communes de l'agglomération, ou d'ailleurs on n'est pas du tout fermé à ça.
Vous parlez de la DULACT, nos amis de la DULACT sont une association qui promeut le logiciel libre auprès des collectivités, comme vous parliez d'une forge, est-ce que vous pouvez nous décrire déjà ce qu'est une forge, quelle est la particularité de la forge à DULACT, et comment vous servez, justement, vous appuyez là-dessus?
Alors nous, ce qui nous plaît aujourd'hui dans la forge de la DULACT, ça a changé de nom, c'est le comptoir...
Comptoir du libre, oui.
Comptoir de libre, c'est ça, merci. Mais c'est qu'on peut, déjà, ça brosse un paysage assez complet des solutions qui sont utilisées, en tout cas proposées aux collectivités territoriales. C'est vraiment la force de la DULACT, hein, c'est qu'ils sont vraiment très, très spécialisés sur les collectivités. Et pour nous, c'est un gain de temps incroyable de voir ce qui s'y passe et de voir quelles sont les solutions proposées. Alors ensuite, ça nous permet, comme je vous ai dit tout à l'heure, de benchmarker, pardon pour le mot anglais, mais de comparer, c'est-à-dire un comparatif entre les différentes solutions, y compris issues du monde propriétaire, et tant qu'à faire, comme je vous l'ai dit, essayer de sélectionner des solutions libres.
Oui, c'était une très belle initiative, très importante, effectivement. Donc le comptoir du libre, comptoir-libre, voilà. Point or, de toute façon, on mettra les références sur le site de l'April, sur la page dédiée à l'émission. Puisque vous parlez de la DULACT, on va faire un peu de promotion, mais qui nous permettra quand même de poursuivre dans nos échanges, parce que c'est vrai qu'une des initiatives de la DULACT, à laquelle s'est joint l'April, c'est ce qu'on appelle les territoires numériques libres, donc un label. Dont l'April est membre du jury, qui va récompenser chaque année depuis 2016 des communes pour l'engagement pour le logiciel libre, en les notant d'un niveau 1 à 5, hein, comme sur le principe des villes fleuries. Et de mémoire, Voisin le Bretonneux en est a été labellisé trois fois, et vous avez candidaté pour 2020.
Oui, exactement.
D'accord.
Exactement. Ça fait 2020 sera la troisième édition, je crois, à laquelle nous participons en tout cas, et nous sommes très heureux. Alors pour nous, l'obtention d'un label, c'est intéressant à deux titres. Déjà au niveau de la population, ça permet de communiquer sur l'obtention de ce label et de les sensibiliser à la cause du logiciel libre. Parce que les gens, voilà, sont pas tous au fait de ce qu'est le logiciel libre, de ce qu'il permet. Donc pour nous, c'est tous les ans l'occasion aussi sur tous nos supports de communication, voilà, de dire bah voilà, regardez, on a obtenu le label, voilà l'évaluation, etc. Et donc de promouvoir le libre. Donc c'est un bel outil de communication en externe, mais aussi en interne. C'est très valorisant pour les équipes qui s'investissent tous les jours, qui utilisent des solutions libres, de leur dire, bah regardez, on a obtenu encore le label et puis on a 3 aromates, on adorerait en avoir une 4e cette année, on fait tout pour en tout cas. Et c'est très challengeant et c'est vraiment vraiment intéressant de rentrer dans cette logique de labellisation bah, qui est gratuite en plus, je le précise, et c'est suffisamment rare pour être cité. Il y a énormément de labels qui concernent les villes qui sont payants. Et voilà, donc c'est aussi un plus, c'est aussi un plus du label Territoire Numérique Libre.
Alors ça, cet argument-là,
j'ai l'occasion de venir à la mairie de Voisins de Bretonneux. Vous verrez sur les directement à l'accueil en entrant dans la mairie, vous avez la plaque qui nous est remise chaque année avec Territoire Numérique Libre. Donc c'est une des premières choses que les gens qui viennent en mairie voient, qui citent parfois d'ailleurs.
Bah, n'hésitez pas à partager, vous enlevez la photo, on la partagera avec plaisir.
Ah ouais, que... ouais, ça marche.
N'hésitez pas.
Ça marche.
Non mais vous soulevez effectivement les deux principaux motivations, on va dire, derrière ce label. Et on sait l'importance aussi de donner sens et de valoriser justement l'engagement pour le salon, c'est une très bonne chose. Alors, j'ai une question sur le salon web, très concrète, donc je vais vous la poser directement. Isa nous se demande à quand une carte OpenStreetMap pour la page d'accueil de la ville.
Ah, ce serait bien. Oui, c'est vrai. Bah, écoutez,
voilà, une bonne idée.
Je note. J'ai une bonne idée, effectivement. En fait, plutôt que de se faire tracer par Google Maps, ce serait effectivement un gros plus.
Et bah, cette question, et en fait, c'est d'ailleurs cette question me permet de passer au sujet que vous voulez aborder, c'est celle que vous avez déjà, dont vous avez déjà parlé, de la relation avec les habitants, les citoyens de Voisins le Bretonneux. Alors vous avez parlé d'inclusion numérique, notamment. Bah, je vous propose peut-être, voilà, si vous voulez développer sur cette. Alors c'est quoi l'inclusion numérique et comment ça se décline concrètement à Voisins le Bretonneux?
Alors nous en sommes vraiment au début de la démarche, donc nous avons souscrit, la ville a voté au conseil municipal une souscription à la MEDNUM dont je vous parlais, qui va nous accompagner dans notre politique d'inclusion numérique. Donc l'inclusion numérique, c'est vraiment ou la médiation numérique, c'est vraiment une politique qui consiste à soit à former les personnes qui sont éloignées du numérique et qui veulent acquérir des compétences, soit faire à la place d'eux, mais avec quand même, hein, c'est pas à la place d'eux sans la personne, c'est faire avec elle, pour les personnes qui n'ont pas les facultés ou qui n'ont pas les moyens d'être équipées. Donc l'idée, c'est de créer un réseau d'aidants numériques sur le territoire. Alors ce qui nous a plu en fait dans la démarche de la MEDNUM, c'est que c'est une réflexion qui est faite au niveau national pour justement permettre à ces 13 millions de Français de pouvoir avoir une, enfin, entre guillemets, une vie numérique, ou du moins utiliser les procédures en ligne sans lesquelles ça devient aujourd'hui extrêmement compliqué, particulièrement compliqué de vivre de façon très très concrète au quotidien. On a tous des exemples, hein, c'est faire ses courses en ligne, c'est chercher du travail en ligne, des exemples, il y en a 1000 aujourd'hui, et l'État au 1er janvier 2022 a décidé, de dématérialiser les 250 procédures les plus utilisées par les Français, hein, les procédures administratives les plus utilisées. Donc face à cela, les 13 millions de Français dont je vous parlais, là, on savait pas comment gérer le problème, donc d'où l'arrivée de la MEDNUM pour trouver des solutions en termes de médiation numérique. Donc nous, la première chose à faire, c'est établir un diagnostic du territoire, et le diagnostic du territoire vous permet de déterminer votre indice de fragilité numérique, et c'est là où c'est en lien aussi avec ma délégation à la ville solidaire. C'est que ouais, c'est aussi pour lutter contre certaines formes d'isolement et de précarité. Donc une fois que vous avez déterminé votre indice de fragilité numérique, bah, vous mettez en fonction du résultat, bien sûr, vous mettez en face des moyens qui peuvent être financiers, qui peuvent être humains. Mais l'idée, encore une fois, c'est de créer un maillage territorial avec des aidants numériques. Alors des aidants numériques qui peuvent être des bénévoles, qui peuvent être des agents de la commune. Qui peuvent être aussi des sociétés ou des indépendants qui décident de facturer leurs services. Hein. C'est pas du tout systématiquement bénévole. Donc voilà. Après, c'est à chaque municipalité de s'organiser comme elle le souhaite. Ça peut être aussi bien sûr le tissu associatif. Hein, je l'oubliais, mais il est ô combien important pour soit former les gens et puis aussi en parallèle faire avec ceux qui n'ont pas les moyens de procéder à ces démarches administratives en ligne de façon complètement autonome.
Oui, c'est intéressant dans ce que vous dites. Ce que je retiens, c'est un peu cette place aussi, bah, du coup, de l'humain. On parle beaucoup de technologie. Quand on parle de technologie, on a oublié, pour revenir peut-être à ce que vous citiez, la devise égalité, liberté, fraternité. Et en fait, voilà, lorsqu'on tout se...
Ah bah là, on est sur la fraternité, ouais. Et l'égalité aussi, hein, c'est ça qui est...
Voilà, et puis on voit, alors il y a cette tendance vers un usage plus important des technologies, notamment bah, entre le rapport entre les administrations et les usagers et les usagères. Tout l'enjeu aussi, effectivement, faut pas que ça devienne, faut pas que ça devienne aliénant pour les personnes. Il faut pas que ça soit fait non plus pour, voilà, pour sortir de l'humain de la relation. Et parfois on voit que ça la déplace. Maintenant, on va plutôt que voilà d'avoir peut-être une relation. Donc on voit l'intérêt peut-être, on comprend l'intérêt que ça peut avoir pour les collectivités, mais on voit aussi l'importance de maintenir du lien humain et la technologie, voilà, ne doit pas le remplacer, c'est juste voilà, c'est
complètement. C'est vrai que c'est d'autant plus criant. La crise sanitaire, surtout le confinement, ont été très révélateurs de ces situations-là. Où le fait de ne pas avoir, je veux dire, pour des personnes qui étaient déjà seules, isolées, de pas avoir la possibilité d'aller sur Internet, ne serait-ce que pour se divertir, ou alors pour établir leur démarche en ligne, pour faire des courses, pour être en contact aussi avec leur famille. Vous renforcez clairement l'isolement et la détresse de ces personnes-là. Donc là, on est clairement sur l'humain.
Oui, c'est très important. Ouais. Donc c'est souvent une question d'équilibre. Ouais. Alors pour rester sur cette relation usager-administration et peut-être les vos démarches dans ce sens-là. Alors à nouveau, je vais faire un peu d'auto-promo honteuse. Si j'ai bien vu sur votre j'ai bien vu sur dans ces candidatures au territoire numérique libre, puisque nous sommes jury, vous vous engagez sur Libre en fait, qui est une association, une initiative de l'April, dont ma collègue Isabella qui est en régie s'occupe, fait beaucoup d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous parler voilà, de votre engagement pour le Libre en Fête? Quelle est l'utilité pour vous de ce genre d'outils?
Ah, sur Libre en Fête?
Oui.
Libre en Fête en particulier, c'est que ça nous donne encore une autre occasion de faire la promotion du logiciel libre et de le faire découvrir de façon un peu plus, je dirais, festive et conviviale. C'est-à-dire que, bon, déjà, on a dans notre espace la chance d'avoir un espace numérique public dans lequel on a mis l'expo du libre permanente. Donc tous les tableaux qui ont été faits sous licence libre par l'April pour expliquer ce qu'est le logiciel libre et ce que sont les formats ouverts. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on ouvre un peu plus au public lors de l'événement Libre en Fête. Et puis, ça nous permet d'aborder des thématiques par une petite conférence en général où on invite en tout cas les habitants qui sont intéressés par cette thématique. On a fait ça une fois sur la souveraineté. Enfin, je parlais de souveraineté numérique, mais pas de souveraineté nationale. Enfin, on l'a évoqué bien sûr, mais de souveraineté individuelle, de voir comment les algorithmes. Alors en plus, c'est intéressant parce que ce sont des questions qui sont directement liées à la démocratie. Mais comment des algorithmes affinitaires nous privent de notre libre arbitre et de nos choix. Donc voilà, à chaque fois, c'était juste un exemple. Et si vous voulez, c'est vraiment pour illustrer comment on utilise l'événement pour faire la promotion de, à la fois de grandes thématiques sur la protection de la vie privée et l'utilisation du logiciel libre qui, faut dire quand même, bien souvent vont de pair.
Oui, c'est pas moi qui vous contredirai en tout cas.
Et puis on en profite. Alors très concrètement là aussi, on aligne sur nos ordinateurs, on met plusieurs distributions de Linux et puis voilà, on fait essayer aux gens. Qui peuvent repartir avec une clé bootable chez eux pour essayer sur leur propre système. Voilà, on s'est pas encore lancé dans les install parties grandeur nature faute de moyens, mais c'est une idée qui nous travaille. Ouais.
Oui, c'est très important, c'est l'exemple par la pratique. Alors, Isa, justement, me demande si vous aviez prévu des événements pour l'édition 2021, qui sera plus une édition anniversaire importante.
Ah bien, écoutez, moi, je m'engage à le faire si le contexte sanitaire me le
Oui.
permet. J'espère quand même, hein, qu'au mois d'avril, nous serons délivrés de toutes ces contraintes bien pesantes pour tout le monde. Mais effectivement, oui, moi, je m'engage à ce qu'on réitère l'événement en avril 2020. Isa, vous pouvez compter sur vos âmes bretonnes.
Rendez-vous pris, elle dit penser à un plan B en ligne au cas où.
Exactement.
En tout cas, voilà, super, dit-elle. Mais nous aussi, on est enfin ravis de ça. Alors, pour toujours rester dans la relation usagée, mais un autre type de relation, puisque vous parliez, un point qui me paraît important, on parle peut-être pas assez souvent dans l'importance aussi du logiciel libre, la question des écosystèmes locaux et comment ça s'appuie. Voilà, on sait que souvent les entreprises du libre sont voilà de plus petites structures, sont plus souvent inscrites dans le tissu économique locaux. Voilà, comment ça se passe à Voisins-le-Bretonneux, comment on... Quel sens, voilà, vous en parliez tout à l'heure, donc quel sens vous donnez à ça?
On cherche, nous, enfin, c'est dans nos recherches de prestataires, hein, que j'évoquais tout à l'heure, des gens qui ont ces compétences-là. C'est vrai qu'on préfère faire travailler, alors c'est ce que je dis, bien sûr, c'est sous couvert de tout ce qui est réglementation des marchés publics, mais en général, on est aussi sur des petites sommes. Mais on cherche à faire travailler des acteurs locaux, oui, en termes de dynamisme de l'économie locale, c'est pas neutre du tout. Alors c'est pas toujours les plus simples à identifier, hein, parce qu'on a même des gens qui ont des compétences qu'on découvre au fur et à mesure, qui d'ailleurs qu'on rencontre, ça nous est arrivé sur des événements comme Libre en Fête, ou qui nous contactent suite à un article sur le territoire numérique libre pour nous féliciter, etc. Ce sont des gens qu'on a plus de mal à identifier que des structures, encore une fois, qui ont d'énormes moyens de marketing et qui font des moyens promotionnels juste hallucinants par rapport aux acteurs locaux.
C'est intéressant, hein. C'est aussi, voilà, en plus, en finançant, c'est toute la logique de denier public d'ailleurs,
Ah ouais.
en réinjectant de l'argent dans le tissu économique local, voilà, ça revient et ça fait vivre, enfin, on voit toute la logique derrière. Si vous voulez d'ailleurs, parce que ça semblait quelque chose qui vous tenait à cœur, cette notion, voilà, du denier public de l'argent, enfin, voilà, de l'impôt, est-ce que vous voulez qu'on s'attarde un peu sur cette notion importante?
Ah ben, si vous voulez, après, bon, c'est des... Oui, je sais pas ce que vous voulez
On
savoir,
a le temps. C'est tout l'intérêt, c'est de prendre le temps pour échanger sur voilà votre rapport en tant qu'élu aux enjeux du logiciel libre. Quand vous percevez quels enjeux vous percevez, il m'a semblé que cet enjeu-là vous paraissait assez central. Donc, je pense que ce serait intéressant d'avoir justement vous permettre de développer
Oui,
un petit peu.
pour moi, celui-là, il est déontologique. C'est vrai que il y avait toute une campagne qui m'avait beaucoup plu sur Internet à une époque. Je crois pas que c'était fait par un organisme français, je crois que ça venait de l'étranger, mais en gros, ça avait été largement repris. C'est voilà, code public,
Argent
argent
public,
denier
code
public,
public.
argent public égale code public. Mais c'est tellement évident que je vois pas pourquoi on devrait réinvestir systématiquement pour des choses voilà qui ont été développées pour une collectivité. Je vous en parle, c'est presque un appel au peuple libriste. Il y a des besoins énormes aujourd'hui en termes de click and collect. Alors c'est sûr qu'il y a des solutions françaises sur le click and collect,
Je me permets peut-être juste de
mais
préciser, click and collect, en gros, c'est on
alors
commande en
pardon,
ligne, on va chercher.
le click and collect, ce sont des solutions logicielles pour vendre en ligne, c'est-à-dire que vous proposez aux habitants de la ville une vitrine où il y a les produits ou les services qui sont distribués par vos commerçants et vos artisans, et les habitants commandent en ligne et viennent retirer leurs commandes, ou alors se font livrer éventuellement à domicile si un service de livraison est inclus. C'est un vrai sujet, c'est déterminant, parce que le petit commerce, pour une ville, c'est de l'emploi local, c'est de la vie dans les quartiers, c'est du lien social aussi. Et aujourd'hui, ce petit commerce-là, il est contrairement à ce que disent des gros vendeurs sur Internet. Il faut vraiment le protéger. Et les grands vendeurs sur Internet aujourd'hui, dans les sociétés américaines très connues,
Amazon, hein, je me
détruisent.
permets de le citer.
Détruisent clairement ces gens-là qui n'ont pas pris le virage du numérique, mais parce que aussi c'est pas forcément faute d'intérêt, c'est faute de temps. Et puis quand on a le nez dans le guidon tous les jours, quand on est commerçant, on travaille énormément, on n'a pas forcément à prendre du recul, en plus sur un sujet pour lequel on n'a pas systématiquement des appétences. Je pense que le rôle des collectivités aujourd'hui, c'est vraiment de s'emparer de ce sujet. Et là, pour le coup, il y a un besoin de mutualisation énorme, parce que si on arrivait à sortir une solution qui répondent à tous ces besoins-là, simple à mettre en œuvre au niveau et qui soit déployable à la fois pour une ville de ou un village de 500 habitants et une ville importante. Là, on répondrait à un besoin énorme et il y aurait de quoi faire vivre tout l'écosystème dont je vous parle tout à l'heure. Et au lieu de ça, aujourd'hui, la plupart des collectivités s'orientent vers des solutions privées parce que c'est les seules qui, malheureusement, je suis très triste de ça, elles sont parmi les seules à répondre correctement aux besoins à la fois des commerces et des collectivités.
Oui, c'est très juste ce que vous dites. Et alors, du coup, est-ce que, de votre perspective, que pourraient faire le pouvoir public centraux, notamment l'État, pour soutenir, pour donner cette impulsion-là ? On imagine qu'il y a de nombreux leviers à activer. Nous, on souhaite que ce soit levé une priorité au logiciel libre. On souhaite, voilà, là, en ce moment, on appelle à la création d'une agence au niveau interministériel. Alors, c'est plus sur le central, mais ça pourrait guider de manière plus générale les administrations pour accompagner et faire aussi, voilà, qu'il y ait une forme que les pouvoirs publics soient pas seulement utilisateurs, mais acteurs des communautés du logiciels libres pour porter, renforcer les logiciels et mieux répondre aux besoins. Bon, là, je vous donne, voilà, nous, les pistes, quelques-unes des pistes qu'on envisage.
Oui, bien sûr, mais c'est là-bas, pour moi, si l'État voulait bien s'emparer de ce sujet-là, on en serait ravis, mais il ne faudrait pas le faire sur une logique, je dirais, descendante, habituelle, parce que là, il faut bien percevoir le besoin du commerce local. Et parce qu'il y a vraiment que sur une démarche montante où on peut percevoir ce genre de choses. Donc ça nécessite aussi bien sûr un travail avec les collectivités sur ces sujets-là. Mais ce serait vraiment, enfin pour moi c'est vital. Puis en plus c'est juste du bon sens parce que c'est le commerce de l'avenir. Le modèle Amazon, c'est un modèle du 20e siècle. On est sur une société qui distribue des produits avec un impact écologique monstrueux parce qu'en général, ils sont fabriqués en Extrême-Orient. Ils arrivent par bateau. Ils sont distribués dans des camions. Enfin, ils arrivent dans des hubs logistiques énormes. À l'heure du développement durable, des circuits courts, c'est juste un non-sens. Donc faisons travailler notre petit commerce sur des produits avec des producteurs locaux, sur de la distribution aussi avec des véhicules propres, et là on arrivera à renverser la vapeur. Et c'est là aussi on peut avoir une vraie valeur ajoutée en termes de conseils, mais pour ça, il faut qu'il y ait une démarche vraiment, je dirais une écoute par l'État des besoins du terrain. Il y a de super initiatives qui se font partout, hein, et en plus elles cartonnent, c'est ça qui est incroyable. Mais j'ai l'impression qu'au niveau des collectivités ou des agglomérations, chacun travaille un petit peu dans son coin, aussi faute d'avoir une solution existante. Je vous dirais, ce que je vous expose là, c'est tout simplement le problème aussi au niveau des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux au niveau européen ou français, où on n'a aucune alternative aux géants américains. Donc, quand on a des occasions comme celle-là de rattraper le retard, j'ai envie de dire, mettons les bouchées doubles. J'ai pas l'impression que ça nécessite énormément d'argent. Au contraire, on est dans des logiques où ça ferait économiser de l'argent à l'État, parce que l'État aujourd'hui taille sérieusement, sévèrement, je vais même dire dans les budgets des collectivités territoriales. Forcément, si chaque collectivité doit s'équiper avec des logiciels propriétaires coûteux pour faire face à un besoin qui pourrait être mutualisé et générer énormément d'économies, ce serait source d'économies, mais à mon avis colossales.
Écoutez, ça me paraît très clair. En gros, si je dois résumer très rapidement, c'est se servir, partir du logiciel libre pour relocaliser et puis faire des économies d'échelle.
Exactement. Et recréer de l'emploi au niveau local, parce que sur c'est pardon, hein, moi je suis très concret, mais les problèmes, on me les pose quotidiennement. Ça créera forcément des emplois locaux, parce que quand vous faites un click and collect, une place de marché en ligne pour une ville, vous êtes confronté à différents métiers, hein. Ça peut être le boulanger, le boucher, mais le primeur. Le boulanger, le prix, il est fixé, donc sur le pain, par exemple, hein. Donc ça peut être un petit peu moins besoin de réactualisation, mais le primeur, il vous dit, moi, mes prix changent 2 fois par jour. J'ai pas le temps de les mettre en ligne tout seul. Donc c'est là où on voit que ça pourrait créer des emplois qui n'existent pas, enfin qui sont pas pourvus aujourd'hui, et du coup les choses se font pas parce qu'il y a un manque de moyens humains à mettre en place.
Très bien. Écoutez, notre échange touche à sa fin. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué et que vous aimeriez aborder? Un dernier mot, vous avez champ libre.
Moi déjà je tenais à vous remercier parce que s'exprimer sur le sujet c'est quand même suffisamment rare pour être pour être souligné, vous voyez que c'est il y a des implications très politiques dans tout ce qui est logiciel libre. Ça touche forcément à l'économie, ça touche à l'humain, merci de l'avoir souligné aussi. C'est en cela, je parlais tout à l'heure de liberté, d'égalité, de fraternité. Je reviens à ça, hein, pardon, c'est peut-être le côté élu. Mais pour moi, on fait difficilement mieux que le logiciel libre pour réunir ces valeurs-là. Et en tout cas, c'est un vrai bonheur de s'investir sur ces sujets-là dans un monde où effectivement les communs sont sérieusement remis en question. Là, c'est plus le militant qui parle, mais du libre, je sais pas.
Bon, je pense qu'on va pas séparer l'élu du militant. Je pense qu'on est on est pluriel et faut pas s'en cacher. Écoutez, Christophe Poissonnade, un grand merci pour cet échange.
Merci. Donc
je rappelle, vous êtes premier adjoint à la maire à Voisin de Bretonneux, délégué à la ville solitaire, oui, au numérique et à la vie économique.
Merci à toute l'équipe, merci à l'April pour
merci
le boulot formidable que vous faites tout le temps et puis à une occasion de se recroiser certainement prochainement.
Au plaisir.